Lila aura 9 ans demain. Elle n'a pas vu sa maman depuis octobre 2015. Elle devait partir en vacances avec son père en Tunisie. En réalité, il l'a enlevée et emmenée en Syrie. Magali Laurent se bat depuis pour retrouver sa fille, désespérément mais sans baisser les bras, et elle publie « Reviens Lila » chez Grasset. Magali Laurent est mon invitée ce matin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Magali Laurent.
Bonjour Mathieu.
La force de votre récit, le témoignage de la victime du djihadisme que vous êtes aussi, les enquêtes, les espoirs, on va en parler. Mais d'abord, vous étiez en contact avec votre fille au début, avec votre ex-mari en liaison vidéo. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était à la fin 2016.
C'est ça. À peu près en été 2016, c'est les dernières vidéos que j'ai eues avec elle.
La dernière fois que vous avez vu votre fille, contact par Skype avec votre ex-mari. Quels sont les derniers échanges que vous avez pu avoir avec votre fille ?
Alors, les derniers échanges ont été très compliqués dans la mesure où Lila parlait pratiquement plus le français, en fait. Je l'ai vue perdre sa langue maternelle au fur et à mesure des mois et de nos conversations. Donc, en fait, je parlais, son père faisait la traduction, Lila répondait en arabe, il me faisait la traduction, donc ça créait une grande distance. Faut savoir aussi que Lila m'appelait plus maman, en fait. Hein. Il avait fait en sorte que...
Il s'était remarié,
et même en dehors de ça, voilà, il avait instauré dans sa tête, en fait, Magali. Quand il me nommait, en fait, il alternait Magali et maman, et du coup, ça a trouvé...
Votre fille vous appelait Magali ?
Oui, ma fille m'appelait Magali, oui. Et donc, en fait, quand j'ai vu que vraiment je la perdais, que voilà, elle s'éloignait et que j'avais plus du tout de lien avec elle, une de nos conversations, en fait, j'avais repris toutes ces petites affaires que j'avais gardées, évidemment. Donc, je lui avais pris ses livres qu'elle aimait, ses coloriages, ses petits jouets, son cartable d'école, et en fait, je lui ai montré par vidéo pour raviver ses souvenirs. Qu'elle se rappelle d'où elle venait, ce qu'elle était. Je lui parlais de la Tour Eiffel parce qu'elle adorait la voir scintiller, de la ville où on habitait, la station de bus, enfin beaucoup de souvenirs, et donc ça lui avait ravivé beaucoup de choses, si bien qu'à la fin de la conversation, son père avait voulu couper parce qu'il voyait que ça la perturbait. Et ça a été en fait nos derniers échanges, parce qu'après ça, il me l'a plus jamais montré, supposant que en fait ça lui avait créé trop de troubles.
Et puis vous aviez pu échanger avec lui quelques temps, et puis plus rien. Un long silence à partir de 2017. Vous dites vous-même que votre mari est probablement mort. Avant, il donnait des nouvelles, puis plus rien. Peut-être dans les bombardements de Raqqa, mais elle, ce n'est pas lui dont on parle. Elle, qu'est-ce qui vous fait croire, Magali Laurent, qu'aujourd'hui elle est encore en vie ?
Alors croire, je sais pas, espérer en fait, parce que je sais que lui s'était remarié à une femme, mais je n'ai aucune information. Il a toujours gardé le secret là-dessus, justement pour pas la retrouver. Après, je me dis que cette femme, peut-être elle a réussi à s'enfuir quand il y avait les bombardements, que peut-être elle s'est réfugiée quelque part, peut-être qu'elle est dans les camps en fait. Hein, c'est le pire scénario pour moi, c'est de me dire qu'elle serait dans les camps.
Parce que dans le livre, vous dites même avoir parfois souhaité qu'elle ne soit plus vivante pour ne pas avoir vécu ces horreurs
c'est
qu'on
ça.
A vues.
Oui, ouais, ouais. Quand on en arrive là, c'est que son enfant, voilà, quand on voit ce qui se passe sur place, quand on voit les actualités, l'horreur du terrain, c'est un déchirement de savoir que sa fille est potentiellement là-bas, oui. Et pour sa paix, oui. Je l'ai pensé, oui.
Aujourd'hui, on est en 2021, du temps est passé. Que vous répondent les services de l'État à son sujet, les services antiterroristes ? Est-ce qu'on s'occupe de Lila ? Est-ce qu'on fait quelque chose d'ici ?
Oui, alors moi, je tiens à remercier en fait les personnes qui s'occupent de ce dossier, qui sont vraiment très impliquées. L'enquête et l'instruction est toujours en cours. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de choses qui sont faites. Et c'est... ça continue. Je sais qu'il lâche pas l'affaire, et pour moi c'est vraiment très important de continuer de voir que voilà, il la laisse pas tomber, et à la fois voilà, c'est des gens qui ont été extrêmement professionnels mais aussi humains envers moi, et dans un accompagnement voilà qui est vraiment très difficile, et c'est vraiment très important pour moi.
Vous avez pensé à aller sur place vous-même ?
Oui, bien sûr, j'y ai pensé dans les débuts, oui. Ça a été une question que j'ai réfléchi long, large, en travers, comment y aller. Est-ce que à un moment donné on voulait essayer de le faire venir jusqu'à la frontière en Turquie pour essayer, voilà, hein, ce qui s'était passé auparavant avec Myriam, essayer de faire la même chose, mais évidemment voilà, c'était un non catégorique. Après, quand on se dit on y va, oui, mais on va où? On cherche où? Comment on s'y rend? Une fois là-bas, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai jamais eu de localisation, en fait. Il m'a jamais dit où il était, donc il aurait fallu que je le croie sur parole et puis voilà, me lancer dans l'inconnu et pour moi, ce que représentaient les ténèbres, en fait. Et ensuite, voilà, quand on y repense, enfin quand on y pense vraiment, moi j'ai eu après cette peur paralysante où j'ai pas pu sauter le pas, parce que pour moi c'était un aller sans retour, et même si je retrouvais ma fille, en fait, je sais pas si j'aurais tenu, et c'était trop, il y avait beaucoup trop d'inconnus, en fait.
Vous ne voulez pas, c'est important ça, que votre fille soit résumée au statut de fille de djihadiste. C'est une victime, vous le revendiquez pour elle. Votre fille, Lila, c'est une victime de Daesh.
Complètement, ouais. Je veux surtout pas qu'on me dise c'est une fille de djihadiste.
Vous n'avez rien vu venir?
Alors il y a eu une période, en fait, en 2014, où je l'ai vu changer, en fait, quand on s'est séparés. Je l'ai vu effectivement changer et basculer dans la religion.
Parce que vous le décriviez comme plutôt beau gosse, il aimait les costumes, ouais, et puis ça a changé.
Et ça a changé, en fait. Ça a changé, comme j'explique, quand on s'est séparés, qu'il a perdu son boulot, il a tout perdu. Donc il a basculé là-dedans. Donc je l'ai vu évoluer, voir la barbe qui pousse, la djellaba, ce genre de choses. Mais en fait, il faut revenir dans le contexte où c'était 2014, en fait, début 2014. Donc le terme radicalisation, moi, j'en avais pas, enfin, c'était pas aussi démocratisé, on n'entendait pas vraiment parler. Moi, ça me gênait parce que je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose et j'arrivais pas, en fait, à mettre deux mots dessus, et je sentais cette impuissance parce que je savais pas quoi faire. Je voyais pas ce que je pouvais faire parce que le dialogue, de toute manière, était impossible. Et vers qui me retourner, parce que j'avais peur de me faire passer pour l'intolérante, dire quoi? Qui porte la djellaba et qui va à la mosquée? À qui, avec par crainte de passer pour l'intolérante de service.
Bah, mais monsieur... avant, quand vous étiez marié, vous n'étiez pas un couple musulman?
Non.
Non, pas du tout.
Non, lui, il était.
Vous-même?
Non, du tout.
Non, c'est voilà, c'était venu de nulle part.
Oui, ouais, ouais. Lui, il a vraiment basculé, en fait, à ce moment-là.
Ce livre, Magali Laurent, c'est un livre que vous publiez demain chez Grasset. Reviens, Lila. C'est une. C'est quoi? C'est une bouteille à la mer? C'est un espoir? Oui. C'est pour elle? Vous vous adressez à elle?
Oui, bien sûr, c'est pour elle avant tout, en fait. Hein, c'est pour laisser une trace d'elle, quoi qu'il en soit. Et pour elle, en fait, parce que je veux aussi qu'elle ait accès à ma vérité et pas que la sienne, parce qu'elle a eu qu'une version de son père. Si jamais elle reçoit un jour ce livre ou qu'elle a accès à cette vérité. Et me dire que, voilà, cette trace, elle sera là pour toujours d'elle. Et qu'on sache qu'elle a été, voilà, une victime broyée par le djihadisme, par ce fléau, et qu'on l'oublie pas.
Reviens, Lila, chez Grasset, publié demain. Vous venez d'entendre la force, hein, d'une mère à la radio, clairement. Bien, lisez son témoignage, parce qu'on vous souhaite du courage tous ici, et puis un peu plus de chance que ces dernières années. Merci, Magali Laurent.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin, dans le tête-à-tête Europe Matin. Il est 7h50.